بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 13 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 1er février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de ce livre très bénéfique et très profitable de Cheikh Al-Allama Hafid Al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « A'lamu sunnati al-manshura ». Donc, dans lequel il répond à un petit peu plus de 200 questions au sujet de la croyance authentique, la croyance des adeptes de la sunna, la croyance sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez, mes frères, toujours est-il de rappeler que la croyance tourne autour de la connaissance des 6 piliers de la foi. Et Tawhid, c'est une partie de la croyance. Et c'est même la partie la plus importante, car elle concerne le premier pilier de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout la foi aux autres points, aux autres piliers, revient à ce premier pilier, à la foi en ce premier pilier. Donc on s'était arrêté sur la question, la 110e question de ce livre, dans laquelle il a dit « Ma dalilul ba'thi min al-qubur ?» Quelle est la preuve de la résurrection des gens de leur tombe ? Quelle est la preuve de la résurrection des gens de leur tombe ? Et il a cité plusieurs versets à ce sujet. Vous savez que la foi en la résurrection, c'est parmi les points les plus importants qui sont traités dans les sourates mekkoises. Vous savez ce que c'est une sourate mekkoise ?
Non.
Tadala. Exactement. Ça, c'est la définition la plus juste. Il y en a qui disent c'est ce qui a été révélé à Mecca. Donc, le plus précis, la sourate mekkoise, c'est celle qui a été révélée avant l'émigration. Même si ça a été révélé dans un autre endroit que Mecca. Lakin, la plupart des sourates mekkoises ont été révélées très exactement à Mecca en plus. Donc, les sourates mekkoises s'adressaient à des mécréants. Et c'est pour ça les sujets qui sont abordés. Et ça, ça nous donne une méthodologie quand on veut appeler quelqu'un à l'islam. On ne commence pas à parler avec lui des détails de la religion. L'alcool est interdit, riba est interdit. C'est une obligation de faire telle chose ou telle chose. Non. Ça, c'est une erreur méthodologique dans la da'wah. Quand on s'adresse à un non-muslim, à un kafir, auquel on fait da'wah, on commence par les fondements de la foi. Notamment le premier, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On l'invite à connaître Allah, à connaître son créateur. Et lui, il est une créature de ce créateur sublime. Donc, on l'invite à revenir vers sa nature humaine saine, de laquelle il s'est éloigné. Et le reste vient graduellement, petit à petit, selon le cas, selon les circonstances, et ainsi de suite. Là, le point le plus important, c'est d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça, déjà, ça le sauve de la mécréance. Ça le fait sortir de la mécréance. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wassalam a enseigné cette méthodologie. Bien évidemment, vous en doutez que le Nabi alayhi salatu wassalam a enseigné comment faire la da'wa à quelqu'un. Il nous a enseigné comment nous comporter dans les toilettes. Comment t'entre dans les toilettes, comment tu sors et comment tu te comportes à l'intérieur, et ainsi de suite. Tous ces détails ont été enseignés par le Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'a pas enseigné comment appeler quelqu'un à l'islam. Et donc, quand le Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam a envoyé le grand savant, le grand compagnon, Mu'adh ibn Jabal, c'est un Médinois qui est entré en islam à l'âge de 18 ans. Il est décédé à l'âge de 36 ans. Et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra à la tête des savants. C'est un des plus grands savants de cette communauté. Oui.
Oui, c'était qui cette personne que vous disiez? J'ai pas suivi.
Il s'appelle Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Un jeune homme que le Nabi sallam aimait énormément. Il lui a dit, « Oh Mu'adh, je t'aime, inni uhibbuk. » Il lui a dit, « Je t'aime. » Et ça, c'est dans notre religion. De dire à ton frère, quand tu l'aimes, je t'aime. Et entre sœurs également. Mais on ne le dit pas à une femme qui nous est étrangère. Donc, il lui a dit à Mu'adh, je t'aime,
non,
il lui a enseigné une invocation à dire après chaque salat. Inni uhibbuk, fala tada an taqula dubura kulli salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ces invocations sont très importantes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a enseignées à des gens qu'il aime énormément. Comme les invocations qu'il a enseignées à Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, aussi elles sont très importantes. Tout est important de ce qui a été rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et qui ont plus de valeur que d'autres. Tayyib. Donc, quand il a envoyé Mu'adh radiallahu anhu au Yémen, et au Yémen, c'était des gens du livre. C'était des gens du livre. Yani, chrétiens et juifs. Et il lui a enseigné comment les appeler à l'islam. Il lui a dit que ce soit la première chose à laquelle tu les appelles, la ilaha illallah, l'unicité d'Allah. Et dans une version, il a dit de les inviter à dire la ilaha illallah. Pourtant, les chrétiens, ils disaient la ilaha illallah. Lakin, ils falsifiaient son sens. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire « La ilaha illallah ». Il faut la dire et la comprendre et la mettre en pratique. C'est comme ça que tu deviens un mouahid. Quand tu dis « La ilaha illallah » et tu la comprends et tu la mets en pratique. « La ilaha illallah » implique que tu t'écartes de toute forme d'associationnisme. Elle est composée de deux parties. « La ilaha » et la deuxième partie, illallah. La ilaha illallah. La première partie, c'est la négation de toute divinité. Yani, tu n'adores personne, ni rien. Et la deuxième partie, t'adores uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça sa signification. La ma'bouda bihaqqin illallah. Et s'ils acceptent l'unicité d'Allah, après tu parles avec eux de la salat. Et s'ils acceptent la salat, après ils commencent à la pratiquer, après tu parles avec eux de la zakat. Et ainsi de suite. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné que ces trois, il lui a dit de les appeler à ces trois piliers de l'islam. Ils disent que à l'époque, le jeûne n'était pas encore prescrit quand il l'a envoyé. Le jeûne de Ramadan. Et le pèlerinage non plus. Mais en tout cas, on commence par appeler les gens aux piliers de l'islam et aux piliers de la foi. Et à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car si jamais ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, un minimum, ils vont obligatoirement l'aimer et le vénérer et souhaiter se soumettre à lui. Et le reste viendra tout simplement, dans une fluidité. Comme c'est ce qui s'est passé pour les compagnons. Vous savez que les compagnons, ils ont passé avec le prophète, alayhi salam, presque 13 ans à apprendre à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, à apprendre la foi. Et la plupart des législations, même, je peux dire, la totalité des législations de l'islam ont été prescrites à l'époque médinoise après l'immigration, à l'exception de la salat qui a été prescrite vers la fin de la période mécoise. Et ça, ça nous donne une méthodologie de comment appeler les gens à l'islam. Et quand tu vas parler avec des gens qui s'intéressent à l'islam, ils vont te poser des questions sur des détails. Tu ne peux pas mentir. Lakin t'esquive ce genre de sujet. Il dit « Pourquoi vous ne mangez pas du porc ?» Commence pas à rentrer avec lui dans des discussions comme ça. Pourquoi vous ne buvez pas l'alcool ? Pourquoi ? Tu dis « On laisse ça de côté. » Ça, c'est des points élémentaires. On va parler des points fondamentaux de la foi. Pourquoi lui, sa curiosité va le pousser, et plus exactement son shaitan va le pousser à poser ces questions-là? Car en général, c'est des points auxquels il est très attaché. Et shaitan veut l'éloigner de la foi par ces choses auxquelles il est attaché et qu'il va devoir délaisser dans la religion. Et ça, c'est des expériences que j'ai fait avec des gens. Par exemple, un DJ qui s'intéressait énormément à l'islam. Il me posait des questions sur la musique. Je ne peux pas lui autoriser ce que Allah a interdit. Lakin, je ne suis pas obligé de répondre à ces sujets. Et on lui explique que croire en Allah et croire en son prophète, ça fait de toi un musulman. Et on ne s'imagine pas qu'il y a un musulman qui n'a pas de péché. Tous les musulmans font des erreurs, font des péchés. Lakin, il faut se repentir. Et comme ça lui facilite la chose. Parce que ça, c'est une grosse barrière pour lui, de devoir délaisser la musique. Et d'autres, c'est d'autres points, d'autres interdits. Taïb. Donc, il a dit quelle est la preuve de la résurrection des gens de leur tombe. C'est-à-dire les gens, quand ils vont décéder, quand ils vont mourir, après l'écoulement de la vie tombale et à la fin de la vie tombale, avec l'arrivée du jour de la résurrection, tous les gens, toutes les créatures vont sortir de leur tombe, ou là, plus pour que ça englobe tout le monde, ils vont sortir du monde tombale, de Alam al-Barzakh. Comme ça englobe même ceux qui n'ont pas été enterrés, qui ont été incinérés, dévorés par des animaux, avalés par un requin. Kulchi, ils vont sortir. Et c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est la vie après la mort. La vie après la mort et la fin des temps. Et ce sujet, comme je vous ai dit, c'est ça qui nous a ouvert cette parenthèse. Ce sujet, c'est un des trois ou quatre sujets les plus abordés dans les sourates mécoises. Car les Arabes ne croyaient pas en la résurrection après la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nasu, in kuntum fi raybin min al-ba'd. In kuntum fi raybin min al-ba'd. » فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ce verset, il dit « Ô homme !» Regardez, il s'adresse aux hommes. Il ne s'adresse pas seulement aux croyants. Il s'adresse à tout le monde. Ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre. Pourquoi vous voyez impossible d'être ressuscité après la mort, parce que vous serez réduit en poussière. Sachez qu'on vous a créé la première création à partir de terre. Adam a été créé de terre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, puis d'une goutte de sperme. Donc Adam a été créé de terre et sa descendance ont été créés d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang. Cette goutte de sperme, après la fécondation de l'ovule, ça se transforme en un grumeau de sang, puis d'une masse de chair, une adhérence qui colle à l'utérus de la femme, puis d'une masse de chair complètement formée ou sans forme. Au début, elle est sans forme, et après, la formation commence petit à petit. La formation des membres, de la tête, du visage, et ainsi de suite. Tout ça commence petit à petit. Allah ensuite dit dans le sens, cela pour vous montrer notre pouvoir. Nous laissons dans les matrices ce qui nous plaît jusqu'à un terme déjà nommé, puis nous faisons sortir sous la forme d'un enfant, pour que par la suite, vous éteigniez la force de l'âge. Il y en a qui ont dit la force de l'âge, c'est 40 ans. Et c'est l'âge auquel, en général, Allah subhanahu wa ta'ala envoie les prophètes et les messagers. Comme notre prophète, alayhi salam, et la plupart des prophètes. C'est l'âge pendant lequel l'homme atteint sa maturité, sa force. Sauf s'il s'est abîmé la santé avec les chips et le fast-food avant. Adaptat, il n'atteindra pas sa force à cet âge. C'est pour ça que c'est très attention pour un musulman de faire très attention à ce qu'il mange. C'est très important dans ta religion. Regardez une parole d'un salaf, il a dit « Man dabata batnahu dabata dina » Celui qui arrive à contrôler son estomac, yani dans le sens celui qui arrive à contrôler ce qu'il mange en quantité et en qualité, il contrôlera facilement sa religion. C'est-à-dire, il sera fort dans sa religion. Chaque être humain est dans un combat permanent, une guerre permanente entre deux choses en lui, entre sa raison et ses envies. Donc les envies, t'as envie de manger. Il y a les nourritures et les aliments qui sont mauvais pour la santé, en général, ils ont un bon goût. Même pour ceux qui ne les mangent pas. Lakin, pourquoi il ne va pas les manger? Avec sa raison. Parce qu'il voit l'homme sage, l'homme doué de bon sens, il ne regarde pas que le plaisir instantané. Il regarde les finalités des choses. Et plus il a de aql, plus il va voir ses finalités. Et moins il a de aql, plus il sera concentré que sur l'instant. Et sur le plaisir que ça provoque ces choses-là. Lakin, il finit par payer le prix très très cher. Et fait la fortune de Had, ceux qui ont inventé Had. Le mode de nourriture. Taïb. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Allah a dit, dans le sens, vous atteignez la force de l'âge. Les uns parmi vous meurent jeunes. La mort ne touche pas que les vieux. Même la plupart de ceux qui meurent, ils meurent avant d'arriver à l'âge de la vieillesse. La preuve, c'est que la plupart des gens de la terre, c'est des personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'il a dit, les uns parmi vous meurent jeunes, d'autres atteignent le plus décrépit des âges, et qui ne seront plus rien après avoir tant su. Yani, avec la vieillesse, la personne, elle perd ses facultés, elle perd de sa mémoire, elle perd de la plupart de ses capacités. Sauf les gens du Coran. Sauf les gens du Coran. Les savants du Coran, ils perdent rien. Yani, la plupart des récitateurs qui nous ont rapporté le Coran, en particulier les 10, car on connaît leur biographie. La plupart d'entre eux ont vécu jusqu'à un âge très très avancé. Et ils n'ont jamais perdu leur mémorisation du Coran. Et ils ont gardé toute leur capacité jusqu'à quitter ce bas monde. C'est pour ça qu'ils disent que le Coran, parmi les causes de garder ses facultés jusqu'à quitter ce bas monde. Ils ne sont pas touchés par Alzheimer ou la... Alhamdulillah, ça c'est parmi les bienfaits mondains de le Coran sur celui qui le mémorise. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, tu vois bien que desséché et inerte, la terre bouge. Et ça, c'est une parabole, subhanallah. Allah subhanallah nous donne souvent des paraboles qu'on peut comprendre, à travers laquelle on voit que c'est facile pour Allah de ramener à la vie ce qui est mort. Regardez des phénomènes que vous voyez autour de vous. Vous voyez une terre complètement desséchée, inerte, et puis cette terre, elle commence à bouger et se gonfle et fait pousser toutes les espèces de végétaux. Dès que nous y faisions descendre la pluie, suite à la tombée de la pluie, quand la pluie tombe sur cette terre complètement ride et desséchée, tu vois, les plantes poussent et la végétation pousse. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ramènera à la vie après la mort. Allah nous a créés à partir de rien. Il nous crée une deuxième fois. C'est plus facile. C'est plus facile que la première création. Mais ça, c'est à titre d'exemple. Amma pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout est facile. La première, la dixième, la millième création, tout est facile. Tout est pareil. Il n'y a pas une tâche qui est plus difficile qu'une autre pour Allah. Tout est pareil. Lakin ça, c'est une parabole qu'Allah nous donne pour qu'on voit que comme il nous a créé la première fois, c'est plus facile qu'il nous crée une deuxième fois. Comme raisonnement rationnel. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا » وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Donc Allah, jusqu'à la fin de ces versets, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou là, je vais lire le verset avant, il y en a aussi qui comporte des leçons. Donc il a dit dans le sens, cela parce que Allah est la vérité. Allah, c'est la seule vérité et le seul qui mérite l'adoration en toute vérité. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est caduc. Et c'est faux. Cela parce que Allah est la vérité, qu'il fait revivre les morts et qu'il est de toutes choses infiniment capable. C'est pour ça qu'on invite les gens à connaître Allah, à connaître son omnipotence, à connaître sa capacité. Comment je vais connaître ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa création, ce que tu vois autour de toi. Et tu n'as même pas besoin d'aller autour de toi. Reste focalisé seulement sur ta propre création. Tu vas voir. Yani, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec des médecins au sujet de l'anatomie de l'être humain, les différents systèmes que nous avons dans notre corps, le système immunitaire, le système respiratoire, le système sanguin, la circulation sanguine. Comment tu vois, comment tu respires, c'est incroyable. Même si tu parles avec un kafir, il va te parler de ça avec stupéfaction. Lakin, il n'arrive pas à la conclusion qu'il faut. Mais ça vient d'où? Il dit, ça vient d'une cellule unique suite à une reproduction aléatoire, irréfléchie, involontaire. C'est le pur hasard. Waouh! Et toi, tu lui dis, j'ai déposé le carrelage chez moi. C'est pas il est venu de nulle part. Non, non, je l'ai déposé chez moi. J'ai déposé des cartons de carrelage chez moi. Et le lendemain, je suis rentré, il était tout fait, tout à l'endroit, bien comme il faut. Il dit, mais t'es un fou, t'es un menteur, toi. Non, je suis un menteur. Dans ce cas-là, c'est vrai. Mais toi, t'es pas plus fou que moi de dire que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est le fruit du hasard. Ouais, en réalité, c'est juste qu'il ne veut pas reconnaître Allah. Parce qu'il est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas se soumettre à Allah. Il ne le reconnaît pas. Il lui change de nom. Il l'appelle hasard, avec grand H. Il l'appelle nature. Ou il l'appelle autre chose. Mais en réalité, quand il te parle, la nature, c'est quoi la nature? C'est quelque chose d'abstrait? C'est des sens? C'est un essence? C'est quelque chose de physique qu'on peut toucher, on peut saluer? C'est quoi cette nature de laquelle tu me parles? C'est les arbres qui ont créé? La nature, c'est les arbres et les montagnes. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont créé. Les montagnes se sont mis d'accord avec les arbres pour créer l'être humain. C'est quoi la nature? Il ne sait même pas. Là, c'est la nature. Al-Mohim, tout ce qu'il va dire, c'est en réalité, il va te parler des attributs d'Allah, de sa volonté, de son omnipotence, mais il l'attribue à autre que lui. C'est pour ça que les hommes de science disent qu'il ne faut pas s'attarder avec quelqu'un pour démontrer l'unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est une évidence. Il n'y a même pas besoin de preuves. Tu as les preuves en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des preuves à l'extérieur. Et c'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il va mentionner son unicité dans la seigneurie et il va leur ordonner de l'unifier dans l'adoration. Car c'est une conséquence rationnelle et évidente. Si tu reconnais que Allah, il est le seul créateur, il est le maître absolu, il est le seul souverain, tu dois te soumettre à lui. Mais le kafir ne veut pas. Il est tellement orgueilleux, pourquoi je vais me soumettre? طيب, donc, وأن الله على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, et que l'heure viendra sans aucun doute. Yani ça s'oppose à la sagesse d'Allah. Allah qui a créé cette création que nous voyons avec nos propres yeux, que nous touchons avec nos propres mains, il l'a créé dans une sagesse sublime, dans une harmonie parfaite. C'est pas possible que par la suite, il va te laisser comme ça disparaître sans rendre des comptes après autant d'injustices et de crimes. Ça s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. C'est pour ça, Allah dit dans ce verset dans le sens, l'heure viendra sans aucun doute. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui se trouvent dans les tombes. La plupart des gens sont enterrés dans des tombes. Lakin, il ressuscitera tout le monde. Ceux qui sont dans les tombes et ceux qui sont dans les océans et partout. Allah dit كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله, هذه الآية عظيمة وكل آيات القرآن عظيمة. Donc ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, ce jour-là, nous plierons le ciel comme on plie le parchemin sur ce qui est écrit. De même que nous avons initié la création une première fois, nous la recommencerons. Et ceci est une promesse que nous devons tenir et nous la tiendrons. Allahu Akbar. Donc, dans de nombreux versets dans le Coran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de la résurrection après la mort, notamment en donnant des paraboles que les gens voient avec leurs propres yeux. Et Cheikh Rahimullah a cité des hadiths également, dans lesquels le prophète alayhi sallam parle de la résurrection. Il a dit wala amru ilahik ma yad'u ala dhahriha min masra'i qatil wala madfani mayyit illa shaqqat anhu al-qabr illa shaqqat anhu al-qabr hatta yakhliqahu aw yakhluqahu min qibali ra'sihi fayastawi jalisan fayaqulu rabbuk mahyam ay ma amruk wa ma sha'nuk. Donc dans ce long hadith dans lequel le prophète alayhi salam a parlé de la résurrection après la mort, et que Allah subhanahu wa ta'ala sortira tous les gens de leur tombe. Et cet homme qui entendait ce hadith, Al-Uqayli, il a dit au prophète alayhi sallam, il lui a dit au messager d'Allah, sortir les gens de leur tombe, d'accord, mais comment Allah regroupera les corps de ceux qui ont été dévorés par les animaux féroces et ceux qui ont été réduits en poussière, éparpillés par les vents. Comment il va regrouper tout ça? Comment il va ressusciter tous ces gens-là? Le prophète alayhi sallam lui a dit, je vais t'indiquer l'exemple de cela dans ce que tu vois. Parmi les signes et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit la terre, t'es déjà passé par une terre aride, desséchée, morte, dans laquelle il n'y a aucun signe de vie. Et suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala envoie la pluie sur cette terre. Et il ne passe que quelques jours et qu'elle profite de cette eau jusqu'à ce que tu vois la végétation pousser de cette terre et les plantes qui poussent. Donc ça, c'est comme les exemples qui sont donnés dans le Coran. Ça a été donné dans ce hadith. Et Cheikh Najmi Rahimullah dit que ce hadith est authentique. Taïb. Ensuite, il a dit dans la question suivante, quel est le jugement de ceux qui ne croient pas en la résurrection, qui traitent la résurrection de mensonge, celui qui dément la résurrection. La réponse, il a dit, huwa kafirun billahi wa bi kutubihi wa rusulihi. C'est un mécréant. C'est un incrédule qui ne croit pas en Allah, ni en ses livres, ni en ses messagers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit de le kuffar, wa qala alladhina kafaru, aïda kunna turaba wa aba'una, a inna la mukhrajoun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de le kuffar, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ceux qui ont mécru disent, une fois que nous serons devenus poussière, nous et nos pères, est-il vrai que nous serons sortis à nouveau vivants des tombes? Kuffar, ils s'étonnent de cela. Et aussi dans l'autre verset, Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله أكبر. Donc dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis que si, par mon Seigneur, vous serez certainement ressuscités, puis informé des actions que vous aurez faites. Cela est pour Allah chose vraiment facile et aisée. Et tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith al-Qudusi, hadith Abi Huraira, le prophète alayhi sallam a dit, Allah a dit. C'est ce qu'on appelle un hadith divin. Il est différent de le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il révèle au prophète alayhi sallam, et le prophète alayhi sallam le transmet tel qu'il l'a reçu. Comme le Coran. Mais il est différent de le Coran. C'est ce qu'on appelle le hadith al-Qudusi. Il est révélé tel qu'il est transmis au prophète alayhi sallam. Et la différence entre le hadith al-Qudusi et le hadith prophétique, c'est que le hadith prophétique, le prophète alayhi sallam reçoit les sens. Et c'est lui qui les exprime avec ses propres mots. Donc les propos, ce sont les propos du prophète alayhi sallam, le hadith nabawi. Là qu'il les sens, tout ce que le Nabi alayhi sallam dit au sujet de la religion, c'est révélation. Comme Allah a dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle point de ses passions, ce n'est que révélation. Tout ce que le Nabi Al-Sassam dit dans la religion, c'est la révélation d'Allah. Taïb, dans ce hadith Qudusi, Allah dit, كَذَّبَنِ ابْنُ آدَمْ. Le fils de Adam m'a démenti. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِكْ. Il n'avait pas à me démentir. وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِكَ. Il m'a insulté. Et ceci, il n'avait pas à le faire, non plus. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّي. Donc comment il a démenti Allah? فَقَوْلُهُ لَيُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي. C'est quand il a prétendu que Allah subhanahu wa ta'ala ne le ressuscitera pas comme il l'a créé la première fois. Et après sa mort, il disparaîtra à jamais. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. Et la première création n'est pas plus وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. Et la première création n'est pas plus facile pour moi que de le créer une deuxième fois. Tout est facile et tout est aisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se fait avec une simple parole. Il dit kun fayakun. Il dit « Sois » et son ordre est exécuté instantanément, subhanahu wa ta'ala. « Sois » et il est. « Wa amma shatmuhu » Par contre, comment, c'est quoi les insultes qu'il a vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, de tout ce que les injustes disent à son sujet, c'est quand il dit « Ittakhadha Allahu walada ». Il dit « Allah a eu un enfant. Ah, »« Allah a eu un enfant. »« Wa ana al-ahadu as-samad. »« Wa ana al-ahadu as-samad. » Et Allah, il est l'unique, celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. « Lam alid wa lam ulad. » Allah n'a pas engendré, n'a pas été engendré. « Wa lam yakul li kufuwan ahad. » Et Allah n'a personne, n'a aucun égal, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est l'égal d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Comme ça, on commencera la semaine prochaine à parler du soufflement dans la corne. Ou là, il y en a qui disent le corps, ou là, d'autres, ils disent la trompe. Le soufflement dans la corne par l'arc. par l'ange Israfil. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine rencontre, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.